Donc bonjour à tous. Je devais être accompagnée par Michel Coulon, qui est chargé d'études aussi à la DGESCO. Nous travaillons toutes les deux au bureau de l'éducation prioritaire et des dispositifs d'accompagnement. Donc notre chef de bureau s'appelle Marc Pablet, vous connaissez tous, j'imagine. Donc dans ce bureau, donc nous nous occupons de l'éducation prioritaire et d'autres dispositifs qui concernent donc l'accompagnement des élèves, des dispositifs que vous connaissez bien en tant que coordonnateur, l'accompagnement éducatif, les cordées de la réussite, OPRE, le travail avec les villes, les contrats de ville, les PRE, etc. Voilà. Et puis un petit nouveau qui arrive, les parcours d'excellence. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, avec Michel, donc, vous m'excuserez de ma voix parce que je suis, j'ai une allergie et j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, ma voix, je, voilà. En premier lieu, donc, avec Michel, on voulait faire un petit rappel historique, rappeler d'où nous venons. Donc, c'est très important. Hein. On ne peut comprendre et construire la réalité des coordonnateurs de réseau aujourd'hui que si l'on regarde l'évolution. De ce métier. Ensuite, nous dirons quelques mots. Alors, nous avions peur de redire encore la même chose, mais ça nous paraît fondamental de dire quelques mots sur l'éducation prioritaire d'aujourd'hui, la mission du coordonnateur qui s'inscrit dans ce nouveau paysage. Hein, et il est important pour nous de bien poser ensemble les fondements qui le définissent. Ensuite, dernier point, donc nous donnerons des éléments qui cadrent la mission du coordonnateur, son rôle, les objets les plus saillants de son travail, tel que le référentiel nous indique. Donc je vais beaucoup me servir du référentiel, donc comme on l'appelle dans le bureau, le petit livret bleu, voilà, que vous connaissez tous mieux que moi sûrement encore. Alors, rappel historique, donc déjà un rappel. Donc on vous a mis une adresse du site de Canopé qui retrace tout l'historique de l'éducation prioritaire. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur Canopé, sur le site de l'éducation prioritaire. Vous avez beaucoup d'éléments et nous mettons à jour le site très très régulièrement, hein, pratiquement toutes les semaines avec Michel. Alors les textes, donc j'ai repris donc les circulaires, et la première circulaire c'est celle de février 90. Alors je vais vous lire, hein, dans chaque ZEP, les inspecteurs d'académie désignent un responsable de la zone qui représente l'équipe éducative engagée dans le projet auprès de l'ensemble des interlocuteurs et partenaires. Il peut s'agir, selon les situations locales, de l'un des chefs d'établissement, d'un IDEN, donc d'un inspecteur de l'éducation nationale, ou d'un directeur de CIO de la ZEP. Le responsable de la zone a la charge des relations avec l'ensemble des partenaires extérieurs. Il prend l'initiative de ces relations au nom de l'équipe éducative. Et là apparaît le mot « coordonnateur ». Donc il est assisté d'un coordonnateur. Le choix de ce coordonnateur doit être indépendant de la fonction qu'il exerce. Donc la circulaire nous dit qu'il doit être dynamique, qu'il doit porter de l'intérêt à la démarche de la ZEP et une bonne connaissance du milieu, qu'il connaît aussi les procédures administratives. Voilà, les qualités essentielles du coordonnateur dans la circulaire de 90. Ce coordonnateur est pour l'essentiel chargé de l'animation interne de la zone. Lorsque le quartier fait l'objet d'une démarche de développement social des quartiers, le coordonnateur de la ZEP fait partie intégrante de l'équipe opérationnelle du projet DSQ, donc c'était le développement social des quartiers. Voilà, donc petite historique. Donc la première fois que le métier de coordonnateur donc apparaît. Par contre, on voit quand même que beaucoup de choses sont déjà là. Hein, le travail avec les partenaires, une bonne connaissance du milieu qui est importante, le travail avec l'IEN. Hein. Alors, le texte de 92, lui, précise plus amplement la fonction. Donc, on nous dit que le coordonnateur de la ZEP est un enseignant de terrain, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Étant nommé dans une école ou un établissement classé en ZEB, il bénéficie des avantages qui s'attachent à cette situation. Il est déchargé de service, donc déjà là apparaît le fait que le cordeau peut être détaché. Il travaille sous l'autorité du responsable. Responsable et coordonnateur de la ZEP reçoivent une lettre de mission de l'inspecteur d'académie. Donc déjà en 92, je calcule pas, mais on est en 2016, vous calculerez pour moi, assez vieux, on nous parlait déjà de lettre de mission. Hein, et ça pose encore quelques soucis. Hein. Une lettre de mission de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, précisant leur mission et leurs responsabilités. Donc, celui-ci, donc le coordonnateur, veille à leur complémentarité, premier et second degré, et rappelle les orientations académiques de la politique des ZEP. C'est ainsi que responsables et coordonnateurs doivent s'engager pour la durée de la programmation et que le coordonnateur doit avoir les moyens d'assumer les tâches qui sont les siennes. Bon, à préciser, le conseil de la ZEP se préoccupera de la manière de pourvoir à ses besoins. Un conseil de ZEP. Donc là, on voit que déjà, les bases sont là, territoire, projet, on parle de zone, hein, on parle pas de réseau. La notion de réseau, elle est plus explicite en 2006, quand s'installent les RAR, donc les réseaux ambition réussite, et les RRS, après les ZEP et les REP de la relance de 97-2000 de Ségolène Royal. Donc, en 2006, on se recentre sur l'éducation nationale, puisque dans les comités exécutifs, il ne devait pas y avoir les partenaires. C'était sans les partenaires. Et le rôle du cordeau était réduit, comme la circulaire de 2006 du 30 mars nous l'indique. Le comité exécutif prépare, harmonise, régule les mesures destinées à faire vivre le réseau et rend compte de son activité au conseil d'administration des établissements, au conseil d'école et aux autorités académiques. Il s'appuie sur les compétences d'expertise et d'évaluation des corps d'inspection. Le coordonnateur devient alors secrétaire de ce comité exécutif, notamment chargé de préparer ses décisions et de les mettre en œuvre. Donc là, dans certaines académies, pas dans toutes, il y a eu quelques soucis, on va dire, quelques recentrages du travail, des missions du coordonnateur de réseau. Voilà, on peut voir que avec tous ces textes, que la mission du cordeau, elle s'inscrit dans un paysage qui est mouvant, hein, qui est traversé par des courants qui sont fondés par des logiques différentes, hein, des causes de difficultés scolaires. On a aussi, et ça on le remarque, la faiblesse de la prescription du texte. Vous voyez bien, il y a des lacunes. Hein. Et comme en parle Gilles Janot en 2005 dans Travail et Action publique, il fait partie de ces métiers flous. Un métier flou parce que flou dans la prescription, flou dans les positions, dans l'organisation, dans les statuts, dans l'identité du métier, dans les horaires, enfin flou, hein, un métier flou. Voilà. Et donc c'est ce qui explique, si je vous interrogeais les uns et les autres, on aurait tous bien entendu des lettres de mission si vous en avez différentes, mais des dispositions différentes dans les académies. On ne fait pas tous le même métier. Ah, c'est vrai, il faut le dire. Voilà, donc ce sont des situations très hétérogènes qui peuvent varier donc d'une académie à une autre, mais aussi d'un département à un autre. Et si dans des circonscriptions, il y a plusieurs réseaux, ça peut dépendre aussi d'un réseau à un autre. Voilà. Donc c'est une mission par contre qui est très ouverte puisqu'elle dépend beaucoup de la personnalité du coordonnateur de réseau qui connaît beaucoup de monde en général, il rencontre beaucoup de monde, il rencontre différentes structures, des partenaires, des représentants de collectivités, des enseignants, des directeurs, des proviseurs, des principaux, des directeurs de grandes écoles s'ils s'occupent des cordées de la réussite. Voilà, donc c'est très, très, très divers. Hein. Et puis, il a un rayon d'action qui est très large, puisque son rayon d'action peut ressembler à celui d'un responsable ou d'un cadre, mais il ne l'est pas. Voilà. Donc, un métier qui a besoin de repères pour cerner au mieux sa mission. Ça va ? Je vais continuer. Alors, on voulait revenir avec donc Michel, parce que nous, ça nous paraît hyper important et à chaque fois, on y revient. L'éducation prioritaire, aujourd'hui, ses fondements. Et quels fondements ? Donc, tout d'abord, une carte plus juste, hein, qui est périodiquement révisable. Donc, en 2019, elle devrait être révisable pour certains réseaux, qui est fondée, bien entendu, sur des critères essentiellement sociaux, économiques, comme vous le savez. Hein, je ne vous apprends rien. Donc, l'action des équipes pédagogiques et éducatives donc, s'appuie sur le référentiel, donc un référentiel commun. Une action qui est centrée sur le cœur de la classe, dans le quotidien des enseignements hein, et des enseignants. Donc, dans cette réforme, il s'agit d'inscrire et de construire une école inclusive. Hein, une école inclusive, pas dans le sens du handicap, hein, qui analyse, comprend et s'adapte aux besoins des élèves issus des milieux populaires. Bien entendu, on a l'enseignement enseigné plus explicitement. Hein, donc, enseigné plus explicitement. Donc, là, je peux dire que le centre... Vous avez aussi sur le site un dossier, voilà. Et puis, à la DGESCO, nous avons mis en place un groupe de travail qui se termine sur enseigner plus explicitement. Et donc, qui devrait être publié donc, sur le site de Canopée. Donc... il est très important de rendre plus explicite aux élèves ce qu'il s'agit d'apprendre, de comprendre et comment. Et on se rend compte que ces élèves qui ne comprennent pas la consigne, qui ne comprennent pas ce que l'enseignant dit, qui ne comprennent pas le sens de l'enseignement, de ce qu'ils vont apprendre, se retrouvent en grande difficulté. Et l'enseignant aussi se retrouve en grande difficulté puisqu'il cherche à bien faire pour que tous ses élèves puissent comprendre son enseignement. Donc la réforme aussi, c'est encourager, motiver les élèves dans une approche bienveillante, mais aussi exigeante, qui veille à des modalités d'évaluation, qui marquent l'investissement et les progrès des élèves et du développement de potentialité de tous les élèves. Tous les élèves peuvent réussir, et là je vous renvoie à l'article 1, 111, tous les élèves peuvent réussir. Développer aussi les organisations pédagogiques qui prennent en compte les besoins des élèves au cœur des classes, composées de façon hétérogène. Les classes sont hétérogènes, on ne peut pas faire autrement, ce serait une utopie d'arriver à des classes homogènes. L'hétérogénéité, c'est une richesse, bon, c'est facile de le dire comme ça, mais on sait bien que c'est une richesse. Si vous êtes là, c'est que vous en êtes tous convaincus. Là aussi, à la DGESCO, cette année, on a mis en place un groupe de travail sur... penser l'hétérogénéité autrement pour faire réussir les élèves. Et il y aura aussi sûrement peut-être quelque chose chez vous, voilà, un dossier. Et puis aussi sur le site de Canopée, nous mettrons le dossier en ligne quand il sera prêt. Voilà, donc que vous pourrez utiliser, hein, bien entendu. Alors, accompagner les élèves dans leur apprentissage, dans la construction de leur parcours scolaire, favoriser la scolarité, bien entendu, des enfants de 2 ans, hein, et les accompagner dans la durée, notamment pour leur autonomie, dans la prise en charge du travail personnel. Ah, le travail personnel, un point important aussi, un sujet intéressant, travail personnel hors la classe et dans la classe, un sujet pareil à la DGESCO, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aussi un groupe de travail sur le travail personnel, puisqu'il va y avoir une grande conférence en octobre. Donc, des éléments aussi seront mis, je pense, sur le site de Canopée. Voilà. Alors, ensuite, la formation et le travail collectif des personnels développés et organisés. Alors, le travail collectif, encore un groupe de travail, le travail intermédiaire dont vous faites partie. Et pareil, je pense qu'il y aura un dossier aussi chez vous, qui est déjà sorti, hein, qui est déjà sorti, d'accord. Oui, oui. Et qui sortira aussi sur le site de l'éducation prioritaire. Donc le travail collectif, c'était une demande essentielle hein, lorsqu'il y a eu les assises de l'éducation prioritaire. Donc une demande qui a été prise en compte, qui avait été longtemps demandée. Donc avec les mesures REP+ que vous connaissez, j'ai pas besoin de vous les rappeler, la création donc des formateurs. Avec la formation des formateurs, une formation qui se termine cette année, la semaine prochaine, avec les premières et la deuxième année. Donc, on devrait revoir des formations réapparaître l'année prochaine, 2017, avec sûrement des nouveaux formateurs. Et puis, le dispositif plus de maîtres que de classe, que vous connaissez bien aussi, puisque vous le suivez sûrement. Alors, la politique d'éducation prioritaire, elle ne peut pas exister si elle n'est pas fortement pilotée. Donc, il y a un pilotage au niveau national. Dans chaque académie, il y a le pilotage aussi, et au niveau local, bien entendu, avec les copiles auxquelles vous êtes conviés. Je dis conviés entre guillemets, puisque vous y travaillez beaucoup. Voilà. Donc l'école n'agit pas seule non plus. Elle organise des coopérations utiles, donc avec les parents et les partenaires. Donc utile pour les progrès des élèves avec les parents, bien entendu, puisqu'une connaissance et une compréhension mutuelle doivent se construire avec les parents d'élèves. Et là aussi, ça fait partie de la formation. Comment travaille-t-on avec les parents? La parentalité est un sujet très très important qui fait partie sûrement de toutes les formations des réseaux. Donc l'élève doit pouvoir compter sur cette relation de confiance avec la famille et l'école qui participent toutes deux à son éducation pour devenir un être singulier, protégé des conflits de loyauté qui sont parfois douloureux. Alors, un conflit de loyauté douloureux, pourquoi j'en parle? Puisque pour nous, à la DGESCO, surtout dans notre bureau, c'est très important, le conflit de loyauté. Donc là, je vous renvoie aux travaux de Rochex, bien entendu. Un élève peut être très mal à l'école. Il faut essayer de comprendre pourquoi il peut être en conflit de loyauté s'il dépasse ses parents, s'il ne répond pas à la demande de l'enseignant. C'est très très compliqué, hein, très compliqué. Donc avec les partenaires aussi, bien entendu, vous travaillez dans le cadre, bien entendu, des PRE, des contrats de ville, et j'en oublie. Ce qui est important aussi, c'est d'identifier les objets de travail avec lesquels on travaille avec les partenaires. Voilà. Ouais. Alors, ensuite. Alors, je reviens là. Voilà. Cette fois-ci, le coordonnateur au cœur de la refondation, au cœur du référentiel. Donc, le coordonnateur s'attelle au bon fonctionnement des instances de réseau. Bien entendu, il n'est pas seul. Il est aidé des pilotes. Donc, je vous rappelle les pilotes, l'IEN, le chef d'établissement et l'IAEPR référent. Donc, je n'ai pas besoin de vous le dire non plus, je pense que vous le savez. Donc, il élabore avec ses pilotes le projet de réseau et, bien entendu, un texte, c'est bien beau, mais c'est la mise en œuvre qui est le plus important. Hein. Donc, toujours dans le cadre du référentiel de l'éducation prioritaire, recentré sur la pédagogie. Donc là, on en est toujours, on donne du sens, hein. On recentre sur la pédagogie, sur l'enseignement. Hein. On donne du sens aussi au réseau en termes d'orientation pédagogique, d'action conduite dans la continuité et la durée, dans le suivi des élèves et de leur parcours. On favorise l'émergence des besoins de formation du réseau, donc ça c'est très important si vous travaillez, pareil, si on parle de trinôme pour les pilotes, moi j'aime bien aussi parler de trinôme pour les coordonnateurs de réseau, avec le formateur et les CPC aussi. Hein. Il contribue bien entendu à l'évaluation du projet de réseau et à la tenue des tableaux de bord. Les partenariats donc utiles au projet de réseau, donc c'est le suivi des élèves par le PRE. Le PRE est indispensable lorsqu'il y en a un, bien entendu. Hein, c'est vraiment un partenaire très très important. Et puis aussi, le coordonnateur est amené à travailler sur l'articulation des temps scolaires et périscolaires, avec l'aménagement du temps de l'enfant, hein, dans le cadre du PEDT. Donc, beaucoup de missions et une coopération utile avec les parents. Hein. Alors, attention avec la coopération avec les parents aussi, par rapport à, je voulais dire, par rapport aux objectifs qui sont poursuivis. Hein. Les parents restent les premiers éducateurs de leur enfant. Pour nous, au bureau, aucun parent n'est démissionnaire. Voilà, j'ai peut-être lancé un pavé dans la mare, mais aucun parent n'est démissionnaire. Et si nous travaillons avec les parents, c'est pour que le parent comprenne mieux l'école et que ce soit une vraie coopération. Hein. Pas une coopération... on va dire informel. Voilà, j'ai peut-être trop vite, mais alors les perspectives, oui, je suis allée très très vite puisqu'il est 10h13, je ne sais pas combien de temps qu'il fallait, mais c'est bon, c'est bien. Voilà, alors les perspectives, vous savez très bien que donc je ne vous l'ai pas dit au départ, mais Michel Coulon et moi-même parlons de choses que nous connaissons puisque nous avons été toutes les deux coordonnatrices d'un réseau, que j'ai été aussi chargée de mission en éducation prioritaire et politique de la ville, donc avec mon IUN on s'occupait de je regarde les collègues au fond, 45 coordonnateurs, non, je me trompe pas. Donc c'était en Seine-Saint-Denis, une mission importante. Donc un métier qu'on connaît bien toutes les deux et qu'on suit et qui nous intéresse beaucoup. C'est pour ça que en 2017, on a inscrit au PNF une formation nationale. Donc il va y avoir une formation nationale des coordonnateurs de réseau, sûrement en janvier. Hein, c'est pas sûr, mais sûrement en janvier 2017. Donc faites attention aux inscriptions, et n'hésitez pas à vous inscrire. Une mission aussi très importante, puisque la formation des formateurs d'éducation prioritaire continue, et elle peut pas se faire sans vous. Voilà. Présentation un peu courte, mais bon, je laisse la place aux questions et aux demandes diverses.